corps.
Tiens.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode de l'anthologie King Khan consacrée à la carrière, à la filmographie de Shah Rukh Khan. On va en rediscuter dans quelques instants. Je suis toujours en compagnie d'Amandine. Comment ça va ?
Eh bien, ça va mieux. En fait, ça commence. Nous commençons à grimper une petite colline qui va devenir l'Himalaya. Donc ça va.
C'est cette fameuse métaphore de la colline que nous devons à Anouk, qui l'a inventée. Avant, elle n'existait pas, cette métaphore.
C'est vrai, les Américains m'ont tout pris.
Voilà, comme toujours, comme toujours. Ça va quand même ?
Ouais, t'as changé ta manière de dire bonjour, ça m'a extrêmement perturbée. Mais écoute, je m'accroche, même si je n'aime pas beaucoup le changement, François.
Mais en plus, je ne mens même pas en disant le bonjour, j'ai ouvert les bras. Tel Shah Rukh, en fait. Peut-être pour ça que ça vous a surpris, il y a une physicalité à laquelle vous n'êtes pas habitué, je m'en excuse. Je vais essayer que ce soit plus le cas désormais. Mathieu !
Oui, bah, moi aussi, ça s'améliore, comme disait Amandine, je crois. On sent qu'on est rentré dans du cinéma quand même si c'est pas du grand cinéma, on sent qu'on fait une petite avancée. Voilà.
Et puis nous sommes rejoints par Clem, qui devait être là la dernière fois, et puis c'était compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, Clem, nous sommes contents que tu sois parmi nous, comment ça
oui
va ?
Bah, ça va très bien, je suis très content d'enfin débarquer dans l'aventure pour cette magnifique programmation avec laquelle on commence, mais très content d'être là.
Voilà, tu as participé à plusieurs émissions Discordia par le passé, tu tiens la chaîne YouTube Cinéscope dans laquelle tu parles notamment, fréquemment, souvent de cinéma indien. Comme tu n'étais pas là la dernière fois, tu bizutages ton rapport à SRK, comment tu le définirais ?
Non, je pense que je suis assez d'accord quand j'entendais la dernière fois que souvent on oublie l'esprit critique quand il est là. Voilà, moi je vais être incapable d'avoir le moindre esprit critique à partir du moment où on parle de Shah Rukh Khan. Ça a été ma porte d'entrée dans le cinéma indien. Le tout premier film indien que j'ai vu, c'était La Famille indienne. Et donc ma porte d'entrée, ça a été Shah Rukh Khan, et mon réflexe, ça a été d'aller au quartier indien à Paris et de chercher tous les films avec Shah Rukh Khan. Et du coup, je me suis mangé des dizaines et des dizaines de films mal sous-titrés sur des mauvaises copies. Et ça a vraiment été le début de ma passion pour le cinéma indien, ça a vraiment été lui.
Un petit mot rapide sur les œuvres qu'on a abordées la dernière fois. Il y avait la série Fauji, qu'est-ce que Fauji ?
Alors, je me suis senti au moins un peu soutenu par Mathieu. On a enduré ça jusqu'au bout, complètement.
On est ensemble.
C'était pas bon, hein. C'était vraiment pas bien. Je pense que je vais pas avoir grand-chose à rajouter dessus, mais le rythme était catastrophique, le côté spot publicitaire pour l'armée, mais... réalisé avec un caméscope, quoi. Enfin, c'est d'une laideur assez incroyable. Donc, pas grand-chose à dire sur Fauji, c'est vraiment dispensable. Après, je trouve que c'est quand même assez fou de découvrir mais ce qui a été dit la dernière fois, vraiment la présence à l'écran de Shah Rukh Khan, qui est là dès les premières images, en fait. On n'a pas ce truc du débutant qui passe complètement à côté sur ses débuts. Là, qu'importe la qualité de la série, lui, il est au centre de l'écran et c'est quand même assez fascinant de le découvrir.
Le second film, téléfilm, enfin ça ressemblait du cinéma, donc j'ai envie de dire film, c'était In Which Annie Gives It Those Ones, écrit, interprété par la grande Arundhati Roy. Qu'est-ce que t'en avais pensé ? Qu'est-ce que t'en avais retiré ?
Alors, je pense que c'est le moment où je vais me faire un petit peu taper.
Ça y est.
Arundhati Roy, elle est incroyable. C'est génial à lire. Elle est incroyable à l'écran. Par contre, le film, j'avoue que je me suis un petit peu beaucoup ennuyé. Bah, heureusement qu'elle est là à l'écran parce que ça a quand même un petit peu eu un aspect de film d'étudiant, quoi. Visuellement, c'est assez laid. Et je préfère largement lire Arundhati Roy que pas que de la voir au cinéma en fait, parce que c'est vachement plus intéressant à lire qu'à regarder en termes de mise en scène. Donc voilà, désolé, je vais un peu péter l'ambiance parce que tout le monde a adoré.
Bah non, mais qu'est-ce que t'as contre les films d'étudiants, hein? Bon.
c'est très bien, mais
faut bien passer
mais que
par
ça
là.
reste à la fac.
Allez. C'est bien. Non, mais en plus, c'est intéressant parce que tes avis sont un peu à rebours de tout le reste de la bande là, dans la conversation privée qu'on a pour préparer les épisodes. C'est bien. C'est bien.
C'est j'ai le rôle de l'antagoniste.
Voilà. Tout à fait. tu es Jackie Schroff à mes yeux. Non, c'est même pas une private joke. C'est une joke de gens qui regardent du cinéma. Jackie Schroff, c'est le père de Tiger Schroff, ce monsieur musclé impavide. Jackie Schroff, il est un peu moins impavide. Il a une grosse moustache. Il est baraqué. Il joue souvent des méchants. Ou des flics qui battent leurs femmes, ou les deux en même temps, sait-on jamais. Et enfin, Idiot, de ma Nicole.
Bah il a adoré, évidemment, il a
ose
adoré.
Oui, voilà, ose nous dire que
non,
c'est
non.
Super.
Là, je vais me ranger à l'avis de la majorité, ouais. C'est compliqué. Et pourtant, Dostoïevski, c'est passionnant. Mais non, ma Nicole et Dostoïevski, sur le papier, j'étais ravi. Et je pense que plus les minutes passaient, plus j'étais en train de me défaire devant l'écran. Donc, grosse déception.
Bon, écoute. Non, pour reparler un petit peu d'Arundhati Roy, en fait, j'en profite un petit peu, enfin, une parenthèse au début d'épisode, pour vous conseiller un très bon bouquin sur les recommandations du camarade Lelo Jimmy Battista. Un bouquin qui s'appelle « Dans la tête de Narendra Modi » de Sophie Landrin et Guillaume Delacroix, éditions Solin Actes Sud. C'est une enquête qui retrace toute la carrière et la vie, faut bien le dire, après les deux sont intrinsèquement liés, de Narendra Modi, donc l'actuel Premier ministre indien. C'est un livre assez remarquable, très honnêtement, enquête avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources, d'interviews, d'explications, de contextualisation, enfin voilà, tout moi, ce que je savais plus ou moins sur Narendra Modi, cette histoire d'émeute dans le Gujarat, enfin voilà, tout est expliqué, toute l'origine du mal, et pourquoi c'est encore pire que ce que vous croyez. C'est assez terrifiant, mais en même temps, c'est édifiant et c'est à lire. Et donc, je voulais vous lire une page où Arundhati Roy intervient. Elle est même, et c'est, voilà, les propos rapportés sont liés d'un entretien avec les deux auteurs. Lors de sa visite en Inde en mars 2018, Emmanuel Macron avait demandé à rencontrer Arundhati Roy, autrice d'un best-seller planétaire, Le Dieu des Petits Riens, roman sur la tyrannie des castes. Arundhati Roy, architecte de formation, est bien plus qu'une romancière à succès, elle incarne la voix de la dissidence. « J'ai accepté de voir le président français, seul, en tête-à-tête », raconte-t-elle. « Je lui ai dit, quoi que je vous rapporte, cela ne fera aucune différence, puisque vous voulez vendre vos rafales, mais c'est mon devoir de le faire. Je lui ai raconté tout ce qui se passait ici. » L'écrivaine n'a rien caché de la situation dans le sous-continent depuis l'arrivée au pouvoir de Modi, et comme elle l'avait prédit, son entrevue n'a rien changé. La France a continué à vendre ses armements et à fermer les yeux sur l'évolution du régime, le sort des minorités religieuses, des Dalits, les mises à l'écart des opposants, l'amenuisement des libertés, la politisation de la justice qui transforme les victimes et les innocents en coupables. Voilà.
Est-ce qu'on peut recontextualiser aussi et rappeler que Macron a invité Modi au 14 juillet dernier ?
Tout à fait.
Macron démission !
C'est le sujet des pages qui suivent. Voilà, pour vous teaser un petit peu, pour vous donner envie de le lire, il y a énormément d'informations hallucinantes. Pour revenir à notre sujet, même si c'est lié forcément, mais on fera le lien plus tard. Là, on revient en 1992 pour les trois films qui nous intéressent aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous faire un petit passage biographique. La dernière fois, c'était une biographie très large qui nous menait à ses débuts sur le petit écran. Là, je vais toujours me baser en fait sur un autre livre, la biographie King of Bollywood d'Anupama Chopra, dont je vous parlais la dernière fois, qui n'existe qu'en anglais. Je vous préviens, mais encore, voilà, je le redis, c'est un très bon livre. Ah oui, et puis aussi, avant de me lancer là-dedans, je voulais faire un deuxième point, parce qu'on avait fait très rapidement la dernière fois, sur la prononciation de Shah Rukh Khan ou Shah Rukh Khan, parce qu'on a été interpellé sur les réseaux, enfin interpellé, il y a eu un commentaire de quelqu'un qu'on salue, qui nous a été un peu interloqué par la vitesse avec laquelle on expédiait le sujet de la prononciation de son nom. C'est parce que, en fait, on en avait déjà parlé dans un épisode de Cajol et moi, dans l'épisode consacré où on parlait du film My Name is Khan, du coup, où effectivement c'est un sujet. C'est un sujet où le personnage tient à la prononciation de son nom. Enfin, tiens, il corrige souvent les gens sur la prononciation de son nom. C'est un personnage qui est de confession musulmane, comme l'est Shah Rukh Khan. Et disons que le sujet, en fait, si justement ça avait été une question de respecter la volonté de Shah Rukh Khan et que les gens qui prononcent le nom Shah Rukh Khan s'en servaient pour l'emmerder, typiquement. C'est quelque chose, effectivement, qui sera à prendre en considération. Après, j'ai l'impression que les deux prononciations, déjà, ont cours, que, bah, notamment, en fait, dans le générique de fin, on reprend un morceau de la bande originale du film Jawan, où il est dit King Khan. Et dans les bandes d'annonces, dans... Les grandes émissions de télé, son nom est prononcé Shah Rukh Khan, et c'est vrai que lui, par contre, le prononce Shah Rukh Khan. Moi, je sais pas, en fait. Je sais pas, je sais que Asma, de l'émission Namasté, le cinéma, qui était venu parler avec nous de Animal, le prononce Shah Rukh Khan. Après, moi, déjà, j'ai dû le mal prononcer comme ça. Voilà, par exemple, Tsuyark, je l'ai souvent prononcé pendant des années Tsuyark. Et puis, je me suis retrouvé face à Julien Carbon, qui a bossé avec lui, et qui prononce Choi. Et qui prononce tous les UI des noms et des prénoms hongkongais, Oi. Donc, je me suis dit, bon, voilà, disons que ça, c'est quelque chose qui a m'apporté, si tu veux. À avoir ce type de prononciation, quand on la maîtrise pas, comme c'est mon cas, l'épiglotte, moi, je le gère pas, en fait. Et je me sentirais à minima mal à l'aise d'essayer de forcer. Je sais que j'ai essayé de le faire et de le forcer et avec des gens, enfin, c'est des gens qui le maîtrisaient. Et j'ai vu dans leur regard, tu vois, il y avait pas de reproche, mais genre, c'est mignon. Donc, je sais pas, pour moi, c'est évident que, enfin, c'est évident. Il n'y a pas de malice ou de mauvaise intention en prononçant Shah Rukh Khan ou de solution de facilité. C'est que, oui, s'il faut que je travaille peut-être sur la prononciation de Shah Rukh Khan et le faire systématiquement, mais voilà, en l'état, je ne sais pas. Vous, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ou est-ce que j'ai complètement halluciné pendant 3 minutes là?
Moi, j'ai décidé que je l'appellerais Shah Rukh Khan. Voilà. Parce que je ne sais pas.
Moi, j'ai décidé que je l'appellerais Shah Rukh.
D'accord.
Mais je comprends ce que tu veux dire. En plus, du coup, on a regardé quand même des petites vidéos à gauche, à droite. Et c'est vrai qu'il y a, même lui, je trouve qu'il y a des moments, là, je ne sais plus quelle vidéo, il y a un truc en ligne où même sa propre prononciation à lui varie, je trouve, entre le début de l'émission et la fin, en fait. Et par ailleurs, c'est vrai que moi qui m'étais inscrite, qui avait vaguement tenté d'apprendre le hindi au début de... il y a longtemps, c'est le genre de lettres ou de prononciation, comme tu dis, François, où bah, ça s'entraîne, ça s'apprend. C'est pas des sons qu'on fait comme ça, juste facilement. Enfin, voilà, c'est pas des sons qu'on a dans l'oreille toute la journée. Et moi, j'ai plus l'impression de mal le prononcer, en fait, si j'essaye de le faire... Shah Rukh Khan, etc. J'ai l'impression de forcer. Et par ailleurs, pareil, j'avais réfléchi suite à la petite remarque qui avait été faite. Et je me rends compte que j'ai pareil, on se pose la question avec d'autres collègues en cours, par exemple, de collègues qui prononcent même tous les noms de réals américains ou quoi, avec l'accent américain, mais en plein milieu d'une phrase française, etc. Donc c'est des questions qui, pour moi, sont plus larges. En tout cas, là, le plus important, c'est de se dire qu'il n'y a aucune malice ou aucune envie chez nous, en l'occurrence, si on dit... Cannes, Shah Rukh Khan, SRK, tatata, c'est pas du tout pour nier un quelconque rapport à ce nom, quoi. Enfin, c'est pas du tout le cas.
Ouais, la remarque était très juste, hein, mais moi je trouve que ça fait vraiment, tu sais, comme ces gens qui ont fait un an d'Erasmus et qui reviennent et qui prononcent tout, genre, hyper parfaitement, et comme tu dis, Mandine, au milieu de phrases françaises, ils vont dire « boum, quand même », et tu sais, du coup, tu comprends rien, enfin, voilà, donc j'assume que c'est pas la bonne prononciation, que c'est une prononciation très francisée, c'est pour ça que je disais, je vais dire « charouk », vraiment que j'imagine écrit comme un chat roux avec un K à la fin, quoi. Parce que voilà, on le prononce mal, mais du coup, d'une manière qui est peut-être plus compréhensible par des Français. Et puis surtout, comme on l'a dit, ouais, on aura moins de difficultés. C'est de la facilité, quoi. Mais la remarque était très juste.
Oui, oui, ça se tenait. Mais après, c'est aussi complètement ma faute sur le moment. C'est-à-dire que moi, c'est évident. Enfin, tout le monde qui écoute cette émission est avec nous en permanence et se rappelle de ce qu'on a dit il y a 3-4 ans.
Et alors, Clem, tu penches vers...
Non, moi, je suis plutôt d'accord avec la facilité de le prononcer Shah Rukh Khan. Je dirais qu'en fait, si on se met à vouloir vraiment avoir la bonne prononciation, Va falloir qu'on l'applique à absolument chaque acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice qu'on va traiter sur cette rétrospective. Et il y a quand même des noms un peu salés qui nous attendent. Donc je plaide coupable, mais la facilité, c'est quand même pas mal.
Rien que les titres de films, on va douiller. Hein.
Ouais, voilà.
Mais par contre, François, faudra faire la même chose avec les Irlandais, là où je sais pas, les Sawars, Ronan, là, tout ça. C'est, tu
prononces à la.
Non. Non, non, c'est à la française maintenant, c'est Sawars.
Sawars. Sawars Ronan. Sawars Ronan.
Non, Colin Farrell. Qu'est-ce que ça dit? Bon, je sais pas d'où venait cet accent et je m'excuse. Je sais même pas à quoi il correspond, mais je suis sûr que quelqu'un a été heurté, donc je m'excuse. et a raison, parce que c'était innommable. Alors, je reviens à ma parenthèse love, romantique, enfin, quoi que. On va voir. Je vais vous parler de la relation, en fait, la romance entre Gauri Shiba et Shah Rukh Khan. C'est des infos qui sont tirées de la biographie King of Bollywood d'Anupama Chopra, répartie sur, je sais pas, 5-6 chapitres. Donc, à l'adolescence, on est vraiment sorti de lycée. Shah Rukh Khan, il a les mêmes potes d'école qui continuent plus ou moins à fréquenter aujourd'hui, et ils se font appeler le Seagang. Alors si, c'est C, et c'est C pour cool.
Voilà. Ça commence bien, super.
Et arrivé donc à ce stade de l'adolescence, ses potes draguent déjà. Ils sont tous fans de films. Ils sortent des répliques de films pour impressionner les nanas. Et je vais pas le redire là parce que c'est bah justement. Enfin, il y a des choses qui seraient perdues dans la traduction, mais tu lis les phrases, tu dis waouh. Le game était intense à l'époque. Mais Shah Rukh Khan, lui, il est pétrifié. Il est timide, il ne sait pas comment s'adresser aux filles. Et en fait, il rencontre Gauri Shiba dans une fête que l'autrice décrit vraiment comme l'équivalent indien d'une boum. On a les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et on a comme point d'orgue le slow, joue contre joue. Gauri a 14 ans quand ils se rencontrent, Shah Rukh en a 4 de plus. Il prend son courage à deux mains. Il finit par obtenir son numéro à leur troisième rencontre et il commence une relation en pointillé. En pointillé parce que caché de leur famille respective, surtout celle de Gauri, ils se voyaient en secret, dans des rencontres parfois de quelques minutes à peine. Il essayait, Shah Rukh, de jouer le petit ami sûr de lui, de surjouer la maturité en disant « Attends, moi j'ai vécu des trucs, je vais t'expliquer, il a appris à conduire, il l'aidait pour les cours, ce genre de choses. » Sauf que derrière, il était complètement immature en termes relationnels. Il était très possessif, très jaloux. Il lui disait comment s'habiller, ce qu'elle n'avait pas le droit de porter. Il refusait qu'elle se détache les cheveux. Il devenait fou furieux quand il la voyait parler à d'autres garçons, à tel point qu'elle ne lui a pas adressé la parole. Elle l'a ghosté, comme diraient les jeunes, pendant 6 mois. Ça l'a rendu fou. Il a appris qu'elle passait des vacances à Mumbai et sur un coup de tête, il prend avec lui 2 Seagangos et il est persuadé qu'il va la retrouver. Il va la retrouver, il part de Delhi à Mumbai. Il a un indice, c'est qu'elle aime nager. Et donc pendant 8 jours, il arpente les plages pour essayer de la trouver. Juste sur cette info-là et cette intuition-là en fait. Lui et ses potes finissent par être à court d'argent, ils revendent son appareil photo pour avoir un peu plus de roupies, ses potes achètent des clopes au lieu d'acheter à bouffer, ils commencent à être un peu saoulés, ils dorment sur des bancs, ils se lavent où ils peuvent, et puis finalement ils décident de prendre des trains retour avec leur dernier argent pour Delhi, et évidemment...
Ta-da-da-da.
Voilà, ils la trouvent sur une plage quelques heures avant le départ, mais ça change rien. Voilà, c'est le côté cinématographique s'interrompt à ce moment-là. Elle est toujours saoulée, en fait. Elle essaye de lui faire comprendre qu'elle a besoin de plus de temps. Shah Rukh prend ça pour une rupture en bonne et due forme. Sauf que 4 mois plus tard, elle lui envoie une lettre pour lui dire qu'il lui manque. Ils prennent la décision de se marier un jour. Ils se voient toujours en pointillé pendant des années et des années. Et au bout de quelques temps, quand même, les parents de Gauri finissent par en avoir l'écho. Pour le père, Ramesh, notamment... Ça pose un problème, même s'ils ne sont pas particulièrement pratiquants, que sa fille hindoue fréquente un musulman, ça lui pose souci, ça peut faire scandale. Mais à ses yeux, moins que le fait qu'il soit acteur, parce qu'il joue, à ce moment-là, il a décroché son rôle dans Fauji. Le père de Gauri, Ramesh, a fréquenté des gens de Bollywood par son travail et leur tirait aucune estime pour le milieu. Pour lui, c'est vraiment pique-pendre des gens de mauvaise vie qui tournent des mauvais films. Voilà. Lors de leur première rencontre, lors d'une fête familiale, Shah Rukh tente de lui faire le coup. Vous me connaissez peut-être sous le nom de mon personnage dans Fauji. Ramesh n'est pas impressionné et lui dit de partir. La mère de Gauri Savita demande à une astrologue comment saboter leur union pour s'entendre dire par cette même astrologue que c'est impossible. Le frère de Gauri, Vikrant, qui est un peu un marlou, menace Shah Rukh avec un flingue. Ça ne prend pas. Au bout d'un moment, Gauri lui demande de mentir à sa famille sur l'argent qu'il gagne pour les impressionner, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Gauri est d'une famille qui est quand même pas dans l'élite, mais quand même assez aisée. Shah Rukh refuse de mentir sur ses revenus. Il lui dit qu'il va devenir une star, même si sa famille n'aime pas le milieu. Et du coup, Shah Rukh se retrouve dans une situation ambivalente. Il fait des allers-retours entre Delhi et Mumbai. Il squatte mais littéralement les locaux de la société de production Iskra Rogopag. Il décroche des rôles dans d'autres séries. Et il n'est pas trop motivé pour Bollywood. Il y a cette réticence-là de la belle famille. Il y a le côté, en même temps, la télé, ça me permet de me faire un nom. Ça me permet de briller dans les productions où il y a peu de choses qui brillent, finalement. Il dégage un allant bizarrement séducteur. C'est-à-dire que son côté, j'en ai rien à foutre, je suis semi-squatteur, voilà, ça lui fait un côté beau gosse, rebelle, indéfini. Et en même temps, il reste très, très, très arrogant. Il y a même des réalisateurs qui disent « Non, mais il est trop sûr de lui, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. » Et puis, comme je le disais la dernière fois, le déclic, c'est la mort de sa mère en avril 91, où là, il se dit « Bon, allez, c'est maintenant ou jamais, c'est qui tout double, puis il faut que je fasse quelque chose pour pas craquer. » Il tourne 4 films coup sur coup, dont 3 qu'on va traiter aujourd'hui. Et il épouse Gauri 6 mois plus tard, le 25 octobre 1991, 7 ans après leur rencontre, dans une cérémonie traditionnelle hindoue. Je vous envoyais une belle photo. Il arrive à dos d'éléphant, dans un costume de Raju Bengaya Gentleman. Pendant toute la soirée, la mère de Gauri redoute que des extrémistes hindous ou musulmans ne viennent interrompre la fête. Il n'en sera rien. Et la carrière Bollywood de Shah Rukh commence donc en 92. Avec le premier film qui sort en juin, c'est Divana de Raj Kanvarn.
Kuch bhi achha sa lik dijiye mere liye.
Kajal, I love you! I love you, Kajal!
नरेंद्र प्रताप, तू क्या समझता है पापी कि तू बच जाएगा?
Compliqué, Divana, déjà. Bah, tous les trois films sont compliqués. Hein. Faut annoncer la couleur maintenant, faut arrêter de mentir aux Français. la star de Divana, c'est Richie Kapoor, et c'est quelqu'un, vous en souvient-il, qu'on a déjà croisé dans l'anthologie Kajol et moi. Est-ce que vous vous rappelez de l'ignoble Raju Chacha? Raju Chacha, c'est un film immonde, mais vraiment dégueulasse, que Kajol a fait, je pense, sous la contrainte. Enfin, c'était notre hypothèse de base, hein. C'était notre hypothèse de travail avec son conjoint, Ajay Devgan. Et Richie Kapoor, en fait, c'est le...
C'est pas un film pour enfants.
Vous dire quelque chose. C'est un film pour enfants, si. Et c'est oui, le père qui meurt, qui est suspendu, en fait, à un bout de colline ou, je ne sais, ou de montagne ou je ne sais quoi, qui va tomber et qui explique des trucs pendant 15 ans à ses enfants avant de mourir. Ça vous dit quelque chose ou pas, cette scène?
Non.
Non.
L'oubli a du bon, François, des fois, tu sais.
L'oubli a du bon. Bah, Richie Kapoor, voilà, justement, je retardais le moment d'en parler de ce bonhomme. Membre de la dynastie Kapoor, jeune premier au charisme contestable, débattable, à tout le moins. On va en parler. Qui joue un chanteur de charme, pareil, point d'interrogation, qui attire les faveurs d'une jeune fille, une jeune Kajal. Et le problème, c'est que le chanteur, qui s'appelle Ravi, a un oncle sagouin qui en veut à sa fortune et qui, pour ce faire, va tenter de déshonorer sa jeune promise, et puis carrément va se débarrasser en bonne et due forme de Ravi, et donc on a notre veuve éplorée avec la mère qui vient de perdre son fils, et là, deuxième moitié de film, l'objectivité n'existe plus. Shahrukh arrive. Shahrukh arrive à moto. Shahrukh arrive en chantant, en souriant, en blouson, en petit t-shirt jean, là.
Il joue de la trompette.
Il joue de la trompette. Enfin, je veux dire, what's not to like? What's not to like? Et voilà, et forcément, notre Shahrukh merveilleux tombe sous le charme de la veuve éplorée. Va décider de l'épouser, malgré les défiances de son paternel, qui ne veut pas qu'il épouse une veuve et qui se déshonore de la sorte. Ravi revient, il n'est pas mort. Enfin, toute une histoire. Qui veut se lancer entre Amandine et Anouk sur Divana? Ce silence vous honore, votre pudeur vous honore. Mais...
Alors déjà, merci François d'avoir précisé que tu prononcerais mal tous les noms, parce que Richie, non, Richie.
Oui.
Richie. Richie. Young Richie Kapoor could get it, hein, par contre. Bon, dans ce film-là, il est déjà un petit peu trop vieux pour avoir un rôle de jeune premier, ça ne va pas. Mais je vous trouve un peu dur avec la carrière de Richie.
Oui.
Non, Amandine, hein, tu démarres.
Pourquoi pas, Alors, j'ai dû reprendre toutes mes notes parce que, bon, bah, j'ai attaqué par Divana et puis, je mettais tout le mal que je pensais de ce film. Et puis, bah, j'ai vu les deux autres, donc j'ai repris toutes mes notes parce que Divana, pour moi, bah, devient le chef-d'œuvre de l'épisode, hein, de la fournée, si je peux dire.
C'est comme quand tu notes tes étudiants et que tu démarres le premier, tu le sais, et quand t'as vu que tous les autres avaient fait de la merde, tu reviens...
Tu ne crois pas si bien dire, je note toujours un premier coup au crayon. Et je reprends tout à la fin parce que voilà, il faut tout changer. Bon, il y a des petits... Ce film a quand même de sacrés problèmes, mais je sais que Mathieu se chargera des problèmes d'habillement. On a tout un début où, bah moi, je peux... Enfin, Richie Kapoor, j'ai rien contre lui, mais il a l'âge de sa mère, donc ça me perturbe. Donc je comprends pas pourquoi il joue un jeune premier alors que je vois bien qu'il a 1000 ans de plus que tout le monde. Donc ça me dérange. Deuxièmement, le côté carrière musicale me dérange beaucoup aussi. Et surtout, il y a des gros... il y a des choses que j'adore, en fait, dans The Bollywood années 90, et notamment les décorateurs fous, et je sais qu'on va en voir plein, mais j'adore. En fait, tout est carton-pâte, c'est des grands salons carrés qu'on va venir filmer en plongée, et là, il y a des salons, je crois, il y a 7 ou 8 canapés identiques mis en carré, alors, tu sais pas pourquoi. C'est toujours énorme, c'est toujours démesuré, c'est pour montrer des personnages comme ça, aisés. Et alors là, on se régale dans ce film, il y a beaucoup de canapés, il y a beaucoup de statues, de vases inutiles au possible, mais on sent que c'est voilà, les décorateurs fous des années 90. Et alors, il y a autre chose que vraiment j'adore, il y a deux choses en fait que j'aime beaucoup, c'est comme le disait François, c'est cette espèce de pliure à la moitié du film, puisqu'on se dit toujours, bah tiens, ça y est... après tout, ils sont mariés, la romance est terminée, et là, bam, non, en fait, il meurt, et puis Shahrukh arrive. Et là, ça, j'adore, moi, quand il y a deux films en un, ou trois films en un, c'est une des choses que je préfère dans le cinéma populaire indien, c'est vraiment cette capacité à nous proposer des, c'est des pliures, quoi, vraiment des moments où tout change. Et j'espère, François, que tu mettras un petit bout de la chanson de l'arrivée de Shahrukh. Koine Koi, qui est juste génial. Moi, j'adore cette chanson. Je la connaissais avant le film, donc j'étais très très contente de la voir. Là, c'est juste des motos à Bombay. Enfin, c'est trop bien. Vraiment trop bien.
Non, puis symboliquement, quoi.
Ah ouais, c'est super. C'est un passage de témoin.
Arrive. Virez-moi Richie Cunningham, là.
Virez la vieille génération. Voilà les jeunes. Et par rapport à ce que tu viens de dire aussi sur son histoire d'amour avec Gauri, il faudrait quand même qu'on... Enfin, je pense que c'est important de souligner c'est pas si anodin pour un jeune acteur qui se lance dans les jeunes premiers, qui va avoir des rôles romantiques. Bah lui, il arrive, il est déjà marié, en fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important. C'est qu'on voit bien, il y a beaucoup d'acteurs qui repoussent, et notamment des actrices. Elles repoussent un peu le moment de se mettre en ménage pour pouvoir incarner le jeune ou la jeune première qui va faire fantasmer les foules, etc. Shah Rukh, bon, bah, il arrive, il est dans l'industrie, il va avoir cette carrière de jeune héros joli cœur, et, bah, et en fait, il est déjà installé. Mais ça gêne pas, comme tu dis, ça gêne pas parce qu'il est éblouissant. Donc dans Divana, je trouve qu'il est éblouissant, avec un mélange, quand même, on voit les restes de Faoji, parce qu'il faut lui donner un peu des trucs musclés de bonhomme à faire à la fin. Et là, c'est là où le film, c'est n'importe quoi. C'est la fin.
Ah bah même quand il sauve Ravi dans la rue, là, il fait « Ah tiens, 10 mecs qui se battent, allez, c'est je vais m'en faire
quoi.
Une douzaine.
» Ouais, on a l'impression qu'il oscille, en fait, entre « Je viens de Faoji ». Enfin, en gros, il a commencé avec des rôles un peu... je sais pas, j'en sais rien, non, je peux même pas qualifier Faoji. Mais on verra qu'il va osciller tout au long des années 90 entre ce héros romantique... Un peu obsessionnel quand même, il va y avoir plein de ça. Ah
ben là, oui, carrément.
Ouais, même carrément.
Il y a plein de problèmes sur son perso.
Il y a plein de persos, il y a plein de problèmes, et en plus, un truc un peu violent. Donc, à la fin, moi, je conseille aux gens, c'est un monument du genre, c'est le grand n'importe quoi des 5 dernières minutes, où on sait rien. Il y a une bombe, il y a la fille qui tombe, il y a des gars, faut se battre. En même temps, je t'aime, épouse-moi. Enfin, c'est 5 minutes, et c'est épuisant. Surtout qu'on s'est tapé des heures d'autre chose, quoi.
Alors quand même, le méchant oncle veut, là, il est joué par Amrish Puri, qui est... je sais pas pourquoi j'ai essayé de le prononcer bien, du coup. Putain, mais... Donc Amrish Puri...
Méchant, très très méchant.
Bah oui.
Oui,
oui, oui, ouais, complètement. Exactement. Enfin oui, j'aime beaucoup cet acteur, et on le reverra plein de fois, et à chaque fois, il sera très 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 méchant, et à chaque fois, on croira à mort, mais il reviendra ensanglanté en criant.
Et c'est important de rappeler pourquoi il est méchant, hein, parce que dès le début du film, on sait pourquoi il est méchant. Il se sent acculé par une malédiction, qui est la malédiction d'avoir été beau-frère. Il le dit. Il dit, je cite, « Vous ne savez pas ce que c'est d'être un beau-frère. J'ai traversé l'enfer. Je vengerai cet affront. » Ouh là là, le nul, c'est pas un vrai frère, c'est un beau-frère. Et donc, du coup, il veut se venger. Il veut tuer tout le monde dans sa famille. Voilà. Il faut connaître les prémices, hein, du film. Voilà.
Non, après, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de gens se plaindre en disant qu'ils avaient traversé eux-mêmes l'enfer en voyant ces films. Shah Rukh, il est dans sa période nanarland. Voilà, d'aucuns ont eu des périodes bleues. Lui, il est dans sa période nanar. Mauvais film sympathique. On se marre. Moi, je rejoins Amandine, les décors. Moi, j'ai adoré les costumes, mais on va laisser Mathieu déterminer. Le montage, enfin, je veux dire, les cut avec zoom, zoom, zoom sur ouais. Genre, je suis surpris. Genre, c'est fun. Après, le scénario est allé trop loin dans le fun.
À la fin, ça pète un câble, ça. Ça pète un câble à la fin.
Enfin, ouais, mais
ouais, à la fin, moi, j'en pouvais plus.
T'as triple zoom sur des cadrages et là tu fais wow, calme-nous.
C'est clair.
Ouais, mais voilà,
la règle des 180 degrés.
Ah oui, non, mais la règle des 180 degrés est morte pendue là. Non, mais réussissez un plan déjà. Enfin,
ça déconstruit les codes. Voilà, ça déconstruit. Mais voilà, en tout cas, on s'ennuie du coup pas trop. Et puis, Shah Rukh Khan, effectivement, première rencontre, même pas premier date. Il n'y a pas eu de date. Il y a eu un premier regard. Le mec se scarifie déjà le prénom de la meuf. Voilà, bon, ça c'est. On mais est dans oui, une ouais. intensité qui bon, voilà, effrayante, hein, mais en même temps, voilà, ça lui plaît à elle, visiblement. Elle a goût douteux, hein, mais bon, c'était les années 90, hein, tout le monde aimait ça. Les vieux chanteurs ringards, et puis derrière, le mec, t'es sûr qu'il va te zigouiller dans 6 mois, ça s'appelait aux meufs à cette époque-là. Mais voilà, non, on peut pas dire qu'on a souffert quand même. C'est pas bon, mais c'est sympa.
Non, c'était fun. Moi, je vais me faire l'avocat du diable, j'ai bien aimé. Voilà.
Et ben voilà, c'est toi l'avocat des pulls.
Non, mais il y a une énormissime suspension d'incrédulité, qui est donc d'apprécier le fait que Rishi Kapoor joue un minet de 19 ans. Voilà. Mais une fois que tu as apprécié ça, tu rentres dans le truc et tu, voilà, t'es côté passager, tu t'admires le paysage. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que. Ils vont justement complètement à fond, dans le sens où il y a des bourre-pifs dans tous les sens, ils se mettent des mandales, mais il y a des sets de baston qui durent des minutes entières où ils se mettent des mandales à répétition. Rishi Kapoor, rappelons-le, arrête les sabres à main nue aussi, dans le film.
Oui.
Voilà, et les mains sont intactes, évidemment, parce que c'est Rishi Kapoor, pas déconner. Rishi Kapoor également tombe d'une cascade en mannequin en mousse. Voilà, ça aussi c'est cool. Il y a plein de trucs comme ça, des petites babioles comme ça, des petits trucs qui traînent que tu peux ramasser comme ça, tu peux les manger un peu comme des snacks comme ça à l'apéro. Et voilà, je sais pas. Et puis c'était encore une fois ce méchant là qui revient, il surgit toujours, il sort de sa boîte là comme ça là, et il est tout le temps là, haha, je suis méchant. Vous pensiez avoir.
Il y a un très beau mannequin en mousse à la fin. Ouais.
Et c'est génial parce qu'en fait, à la fin, il devient tellement méchant qu'en fait, il se transforme en boogeyman parce qu'il ressort. Une dernière fois, on pense qu'on l'a tué, il ressort, il est ensanglanté, il est là. Vraiment, je sais pas. C'est génial, quoi. Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça assez fun. Je vais pas bouder mon plaisir. Je trouve que c'est assez cool. Pour le coup, j'ai bien aimé les numéros musicaux, quels qu'ils soient, pas seulement ceux de Charouk. J'ai trouvé que c'était des sortes de bouffées d'air, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des longueurs. Faut pas non plus mentir.
2h50.
Hein. Mais. C'est ça. Et. Ouais. Mais les numéros musicaux qui arrivent par-ci, par-là, ça permet un peu de. De faire passer un peu la pilule, quoi. Je sais pas, je trouve ça assez sympa. Il y a aussi le... comment il s'appelle ce... Je ne me rappelle même pas le nom du personnage, mais Charouk, il a un copain Zébulon, il a un sidekick Zébulon qui passe son temps à secouer la tête. Ça fait penser un peu à Maurice Riche, parce que j'ai des références d'esthète, vous savez. Donc, il y a cette espèce de mec, là, qui arrivait comme ça, je me suis dit...
À chaque fois, tu vas nous trouver le Jacques Balutin du film, d'accord.
Non, mais à chaque... Voilà, ben, écoute, Ajay Devgan, c'est le Henri Guibé. du coup, le... Le copain d'Air Serka, c'est Maurice Riche. On va trouver à chaque fois, t'inquiète pas. Je me demande qui fait Paul Prébois, par contre, mais bon, ça, on va finir par le trouver aussi. Voilà. Et à nous parler de déconstruction des codes, eh bien, tu ne pensais pas si bien tomber, Anouk, car là, on a parlé de la fin abrupte, là, de cette espèce de fin qui. Comme ça, là, comme je disais, ça faisait. On a l'impression que c'était un enfant de 6 ans qui jouait avec ses G.I. Joe et paf, 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 pouf, explosion, et c'est fini. Et ben. Mais mine de rien. Enfin, quand on lit entre les... On filigrane un peu quand on lit entre les lignes. Eh ben, le trope habituel du triangle amoureux bollywoodien est pris à contre-pied. Parce que, normalement, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, ça aurait dû être... spoiler, désolé. Mais Richie aurait dû récupérer la meuf. Et en fait, Richie récupère rien du tout. Il récupère... Enfin, il finit en cendre. Voilà.
J'étais très surpris aussi, ouais. Je pensais que ce serait Charouk, justement, qui se sacrifierait, tu vois.
Il récupère sa mère. Il repart avec sa mère, Richie.
Ah... Ouais, c'est vrai. Mais c'est Rishi Kapoor qui apparemment a poussé pour la fin d'ailleurs. Les producteurs voulaient justement que Charouk passe l'arme à gauche et en fait, non, c'est Rishi qui a dit non, c'est à moi de mourir. Et tu as eu raison.
Ouais, ça fait sacrifice, voilà. Ça fait classe quand même.
Bah ouais.
C'est vrai. Avant le point pull, garde-nous ton énergie, je vais demander son avis à Clem. Divana.
Je vous trouve quand même bien sympa de dire qu'on ne souffre pas. J'ai noté, là je regarde mes notes, 1h, 20 minutes et 18 secondes. C'est le temps avant que Charouk Khan arrive à l'écran. C'est le temps de souffrance, globalement, face à ce film. Parce qu'on a quand même 1h, 20 minutes et 18 secondes affreuses, où on a un Rishi Kapoor de 40 ans qui en fait 60, qui a... Souvent, on a tendance à dire que le talent saute une génération. On dit ça pour Abhishek Bachchan, pour plein de fils d'eux. Bah, Rishi Kapoor, c'est un peu ça aussi, quoi. Ça a sauté sa génération.
Non.
Pour relancer le débat, heureusement que son fils l'a récupéré.
Bah non.
Mais moi, ça m'a fait marrer parce qu'à un moment donné, l'héroïne dit « Mais me demande pas de l'oublier ». Et j'avais envie de lui dire, mais c'est Rishi Kapoor. Enfin, t'as Charouk Khan en face de toi, qu'est-ce que tu veux ne pas l'oublier ? Je comprends pas. Après, il y a quand même un truc qui est assez fascinant avec le film, c'est que c'est un des premiers films grand public bollywoodien qui est traité de la condition des veuves et qui parle du fait de pouvoir, pour une veuve, avoir une vie après. Le souci, c'est que le message de base peut être très progressiste, sauf que on s'assoit complètement sur son consentement à elle, ce qui rend très complexe. C'est que d'un côté on se dit c'est trop cool comme message de dire une veuve a le droit d'avoir une autre vie, sauf qu'elle veut pas avoir une autre vie. Et tout le monde choisit à sa place et lui dit mais si tu vas avoir une autre vie en fait. Et c'est très paradoxal.
Mais c'est ça tout le long en fait. Il la menace de suicide, il se scarifie en lui disant I love you. Il lui demande, et il y a carrément cette question qui est adressée en fait, il lui demande son consentement pour fêter le mariage. Et elle lui dit, et si je refuse, tu le feras quand même? Il fait, bien sûr. On rigole. Ouais. Mais c'est très ça. Et après, en fait, une fois qu'ils sont mariés, il fait des efforts.
Bah oui, il la viole pas quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas si mal.
Voilà.
Ouais, et c'est montré comme un geste héroïque, hein, vraiment, de lui dire...
tu vas me laisser ton rendre heureux, oui.
C'est très paradoxal. Voilà, ouais. La dichotomie du truc de, à la fois, être très progressiste et très réac, j'ai trouvé ça assez fascinant. On découvre un petit peu les prémices du Shahrukh psychopathe lover qui va être développé dans les films suivants, notamment, je pense, Bazigar, Dar. Il va y avoir toute une période comme ça où voilà, l'amant obsessionnel va devenir un peu sa marque de fabrique. Sauf que là, c'est pas totalement assumé par le film, en fait. C'est ce qui rend le truc assez, assez perturbant. Mais voilà, heureusement qu'il y a de très belles chansons. Je suis tout à fait d'accord sur l'arrivée de Shah Rukh Khan, qui a vraiment un côté symbolique, quoi, de son arrivée dans le monde du cinéma. Et juste un dernier point que je retiens du film aussi, c'est quand même l'actrice Divya Bharti, qui est quand même une carrière vraiment à part. C'est une actrice qui a tourné dans le cinéma tamoul, dans le cinéma telugu, dans le cinéma hindi, mais que de 90 à 93, parce qu'elle est morte à 19 ans, dans des situations très particulières, et qui, en 3 années à peine, a tourné une vingtaine de films, ce qui est assez fou. Et je trouve qu'elle a une présence à l'écran qui est vraiment marquante. Et face à un Shah Rukh Khan qui fait tout pour que la lumière lui revienne, c'était pas évident pour l'actrice de briller dans un film pareil, et je trouve qu'elle fait une très très belle performance.
Et en t'écoutant, Clem, je me rends compte que peut-être, tu vois, on a dit, c'est un peu un passage à témoin d'un espèce de romance un peu bébête, là, tous les une heure et quelques de Rishi Kapoor, qui nous rejoue des trucs qu'on a déjà vus plein de fois à l'époque, vers ce Shah Rukh Khan qui, comme tu dis, va glisser, on va aller vers Bazigar, Verda. Et je me demande si c'est pas son intensité à lui, parce que quand même, là, c'est vraiment premier rôle bollywoodien par rapport à ce qu'on a vu avant. Là, il a vraiment un truc dans le regard, une espèce d'excès, si je peux dire, d'oubris. Et je me demande en quelle mesure est-ce que c'est pas cette espèce de nouveau héros romantique, mais qui ne met pas de côté sa violence, qui ne met pas de côté les yeux fous, la mèche folle, etc. Est-ce que c'est pas une espèce de message qui est envoyé aussi à l'industrie, qu'il va falloir renouveler un peu les romances où on se court après dans des champs de fleurs, quoi, tel que Rishi fait très bien pareil.
Complètement. Mais même musicalement, en fait, il y a une transition, parce que les chansons de Rishi Kapoor, ça reste quand même des ballades très à l'ancienne, même dans la mise en scène, hein, des chansons. Là où, quand Shah Rukh Khan arrive, bah, tu l'as dit, c'est vraiment en moto, il débarque en ville, enfin, il y a un côté Starmania, quoi.
Il baisse ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
C'est ça.
Le problème du film aussi, c'est que c'est une structure grosso modo en 5 actes. Le premier fait 1h20, le dernier fait 5 minutes. Enfin, il y a comme un déséquilibre. Enfin, voilà. Les pulls, Mathieu.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, François Rantaine. C'est le mème du cheval bien dessiné qui est très mal dessiné à la fin, quoi. C'est un peu ça. On passe 1h20 à expliquer un truc dans tous ces détails dont on a un peu rien à foutre, et au final, pour faire 3 croix. Voilà, pour finir là-dessus, quoi. Mais mon analyse vestimentaire est quand même assez sacrément triviale après tout ce qui a été dit, surtout ce que vient de dire Clément, qui est très, très profond et très intéressant. Moi, je vais vous expliquer, grâce à une analyse finement menée de l'évolution des tenues de Rishi Kapoor, et en particulier de ses pulls, je peux vous expliquer pourquoi.
Je reprends des photos de la discussion, c'est violent. Hein. Il faut prévenir, hein, c'est vraiment waouh.
Ouais. J'ai compté 8 pulls en l'espace de 20 minutes. Et je peux donc vous expliquer pourquoi, grâce à cette évolution de tenue, pourquoi dans Diwana, ben, ça baisse sec et très vite. Voilà. Parce que, donc, je commence. Donc, Rishi débute le film tout de blanc vêtu, telle une colombe de la paix venue enchanter les foules de sa voix de rossignol, n'est-ce pas? Et le blanc, dans les cultures indiennes, c'est quoi? C'est la paix, la pureté, la virginité et la connaissance. Voilà. Alors on va se concentrer sur la pureté et la virginité, parce que le reste, on s'en fout.
Il y a le deuil aussi, quand même.
Oui, mais...
Ça n'arrange pas, ça n'arrange pas.
Deuil, là, il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de deuil à ce moment-là. On y viendra après. Et alors, plus on avance dans le film, plus Rishi crie son amour à Divya Bharti. Un amour qui est évidemment réciproque, hein, contrairement à celui avec Shah Rukh. Ce faisant, Rishi arbore de plus en plus des pulls de merde, aux couleurs franches, chamarrées, avec des motifs tous plus douteux les uns que les autres. Est-ce que du coup, on ne peut pas parler là d'une perte de pureté, et surtout d'une perte de virginité? pour Rishi Kapoor. Parce que n'oublions pas que Rishi Kapoor est censé jouer un chanteur qui a 19 ans. Hein. Voilà, ça, c'est très important pour l'explication. Voilà, on a également la scène de la perte du bracelet de cheville, puis le morceau musical qui s'ensuit. Est-ce que ça ne vient pas confirmer justement cet amour consommé? Et paf, dans la foulée, Rishi Kapoor se marie avec Xavier Berti, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il porte? Un costume blanc. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé sa pureté après cette incartade hors mariage, bien sûr. Mais il garde quand même une petite cravate pleine de couleurs, parce qu'il a encore un petit peu naughty sur les bords. Voilà.
Limite la cravate clavier, quoi. Oui, oui, d'accord.
Voilà. Mais oui, donc c'est sacré pull de merde. Mais c'est pas qu'une question de pull de merde. C'est une question de... C'est pour ça que j'ai dit des tenues vestimentaires, hein, parce que... Il y a, bon, les pulls, c'est le clou du spectacle, mais c'est l'entièreté de la tenue. Parce qu'il y a un moment, il a cette espèce de pull à rayures avec une chemise jaune où il laisse dépasser le col par-dessus, avec un espèce de pantalon marron tout lâche. Enfin, vraiment, non, vraiment, c'est affreux. Il a cette espèce de... Un pull, moitié polo, avec... Il y a trois motifs différents dessus. Quatre même, dans le même pull. Enfin, vraiment, c'est pas possible, quoi.
Tu veux dire comme il y a quatre films dans un film?
C'est ça, ça se trouve, c'est peut-être ça. C'est peut-être une métaphore du film, tu vois.
Mais du film.
Mais il y a un pull, là où c'est quand même fou, c'est quand il rencontre tous les amis d'Olivia Barty. Il a un pull, sans déconner. On dirait, vraiment, c'est ce que je disais, on dirait un code de permis bateau, quoi. Il y a des drapeaux dessus, de toutes les couleurs. Et par-dessus, en plus, il met une chemise jaune à pois. Voilà, donc ça suffit, Richie. Il faut arrêter les conneries, quoi.
Mais c'est pour voilà, faire jeune. Juste...
C'est groupie, le regarde, mais avec désir. Faut dire ça, quoi, aussi.
Après, quand il arrive au début, là, en mode Liberace, dans son petit costume blanc, qui est habit de lumière, là, comme ça, moi,
oui, ça va.
Voilà, ça passe, tu vois. Après, bon, voilà, c'est vrai que, oui, Kajal, qui se retrouve là et qui dit « Ah, c'est vraiment, il est formidable, et c'est... mais absolument horrible, tu te dis mais non, il n'est pas formidable, on dirait un daron en goguette, arrête quoi. Alors qu'en plus, à la fin, par la suite, quand il ressurgit des ténèbres, justement, ou de la cascade, quand il revient, il est tout de noir vêtu et il a surtout une barbe, sacré glow up,
la barbe.
Ah ouais, ça, moi je le sais parce que ça me fait la même chose. Mais ouais, Rishi Kapoor et la barbe, franchement, glow up de ouf. Voilà. Donc, sur la deuxième partie du film, bah, tu te dis, ouais, moi, je comprends qu'après, elle doute quand même d'Olivia Barty parce qu'il revient, c'est son vrai amour, et il est pas mal, tu vois. Voilà, je sais pas.
Oui, puis tu sais, il avait que 20 ans de plus que le rôle. Là, autant lui rajouter une quinzaine d'années de plus. Tu vois. Enfin bon. Ouais.
Mais ça, c'est pas grave, ça. Moi, j'ai accepté. Moi, j'ai accepté l'idée, je m'y suis fait et j'ai passé un bon moment. Voilà.
Eh bien, tant mieux, parce que tu vas garder la parole, Mathieu, sur le deuxième
film. Ah, merde,
ouais. On t'avait dit de garder ton énergie.
Ah ben, super. Vous allez voir, en plus, là, on va rentrer dans un tunnel, je vous raconte pas.
Très bien, c'est ça qu'on veut. Dans l'anthologie Kajol et moi, et aussi, quand même, il faut le dire, dans l'anthologie Maggie Cheung, il y avait toujours, dans un épisode, une comédie qui usait les nerfs.
Une? Plusieurs?
il y en avait plusieurs, oui, dans Maggie Cheung, il y en avait plusieurs. Dans Kajol et moi, généralement, il y en avait toujours une. Tu vois, elle est là, avec des petits singes qui conduisent des voitures, ce genre de choses. Et ben là, on y est, ça ne nous avait pas spécialement manqué. Chamatkar de Rajiv Mehra. On démarre sur un générique animé. Pour parler de mauvaise animation, l'image, c'est-à-dire, oh là là, c'est une cinématique de PlayStation 2 ou quoi. Là, c'est du Minitel. C'est du Minitel. C'est waouh, c'est agressif. Hein, c'est agressif. La musique est agressive.
C'est
tu fais
affreux.
Dans quoi on s'embarque? Charouk joue un jeune professeur des écoles motivé dans une toute petite école. Il se fait pisser dessus dans les 4 premières minutes par un élève. Enfin, y a une photo de Gandhi affichée dans sa classe, j'ai noté, voilà. Et il veut monter à la ville. Voilà, on lui promet monts et merveilles en montant à la ville. Et voilà, évidemment, il se fait piquer toutes ses affaires. C'est la merde. On lui dit de dormir dans un cimetière, ce qui est un conseil, ma foi. Et là, il va tomber sur le fantôme d'un mafieux qui est joué par Nasiruddin Shah, qui est, que j'ai trouvé très classe. J'ai trouvé très classe dans son arrivée. Après, sur la longueur, ça fatigue, ça patine. C'est la faute du film. Hein. C'est la faute du film qui est une comédie pantalonnade. Le signe qui ne trompe pas, il y a le terrible Johnny Lever dans un second rôle. Et du coup, voilà, il est là, il fait des blagues. Alors, c'est vraiment un comic relief de troisième plan. Hein. Mais il y a des second rôles pas possibles. Hein. Il y a des bullies, sbires, tueurs à gages. C'est pas clair parce qu'ils sont tellement incompétents, ils font tellement n'importe quoi que voilà. Il y a une bully goth qui mange ses cheveux. On est dans ce genre de truc. On a un méchant très 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 méchant qui a vraiment été vraiment bossé pour montrer que.
Il y a des lingots d'or en aluminium aussi.
Oui, oula, mon Dieu. Il y a du comique de situation, parce que Shahrukh est le seul à voir le fantôme, et le fantôme fait n'importe quoi, il fait voler des objets, il fait voler des gens, il fait voler Shahrukh. Et il y a des effets spéciaux, et des transparences. Il y a des effets spéciaux qui sont plus ou moins réussis, je me dis, oh tiens, étonnant, et puis derrière t'as une transparence qui te pique les yeux, mais d'une force, oh là là, en plus le grain d'image est pas le même, enfin c'est ultra violent. Et puis c'est de la comédie indie... Si t'achètes pas, c'est dur. Et c'est dur d'acheter. Mathieu, tu as un rapport humain, personnel,
oui.
Émotionnel.
Une mat ou anecdote.
Tout à fait. Car moi, j'ai acheté. Moi, j'ai acheté. J'ai acheté littéralement. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, dans l'épisode précédent, vous vous rappelez quand j'expliquais que Shah Rukh Khan m'avait sauvé la vie, un soir d'été normand pluvieux en 2006.
Oui.
Eh bien, figurez-vous que rebelote. Printemps 2009, je suis à nouveau au fond du trou. Voilà. Je viens d'arriver à Paris depuis quelques mois. J'habite dans un appartement mitoyen du 18e à La Chapelle. Pour l'anecdote, c'est un appartement construit comme un décor de cinéma, mais dans le mauvais sens du terme. Mon proprio, il est décorateur de cinéma. Il a construit l'appartement comme un plateau. Donc c'est présentable, c'est réaliste, mais ça tient pas. Ça s'effrite.
Il ne faut pas s'appuyer sur les murs, thermique. Sinon ça tombe.
Exactement. Les lattes se barraient quand tu marchais dessus. Voilà. Bref. Donc j'habite à La Chapelle.
Wow.
Son métro aérien, ses craquettes. C'est ragro comme les chihuahuas. Et surtout, ces boutiques de bric-à-brac tenues par des gens du sous-continent indien. Voilà. Donc, parce que c'est pas cher et que c'est rigolo, mais aussi parce que j'ai la fièvre acheteuse quand je suis pas très à l'aise, quand je suis un peu triste, j'achète n'importe quoi là-bas. Voilà. Notamment des caleçons, dont je fais encore l'usage aujourd'hui, c'est important de le dire. Un peu trop d'infos, je sais, mais des os, pas des os.
Ah non, mais je prends des notes. Je prends des notes...
Non mais c'est un paysage, ça nous aide à... On te voit là, on t'imagine dans ton caleçon.
Exactement, c'est ça. Vous me voyez, exactement. Imaginez-vous, il pleut, il fait gris. Voilà, j'arpente la avenue Max Dor, moi. Et surtout, en fait, je check toujours les bacs à DVD pour voir s'il n'y a pas des nouvelles choses. Parce que j'ai acheté Mohabbatein, j'ai acheté La Famille Indienne, j'ai acheté Verzara, j'ai acheté plein de DVD là-bas. Et à chaque fois, je ne suis pas déçu. Voilà, donc je regarde s'il y a des choses nouvelles. Et là, je tombe sur une jaquette avec des couleurs fluo, une typo cartoon. Et surtout, je vois Shahrukh qui joue de la flûtine. Et je me dis, oh, ça c'est pour moi ça. Voilà. Et je trouve Shamadkar. Donc moi, je suis pas encore tout à fait au fait des débuts chaotiques de Shahrukh. Hein, je suis pas non plus au courant des interlopes, des DVD indiens pirates. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le truc parce que moi, j'ai surtout besoin que King Khan, en fait, il me sauve la vie une seconde fois. Quoi. Donc je me jette sur le DVD. Paf, je rentre chez moi tout guiré avec mon DVD, avec mes slips aussi, tac, hop, c'est le signe d'une soirée qui s'annonce, une belle soirée, voilà. Et je lance le film et je comprends absolument rien. Mais alors, la qualité est horrible évidemment, oui. C'est un rip dégueulasse qui a été gravé sur une platine Nero. Oui. Shahrukh, il est là, mais il a l'air aussi perdu que moi, quoi, clairement. Le film n'a ni queue ni tête, c'est-à-dire que les séquences... elles s'enchaînent, mais elles n'ont aucun lien entre elles. Et je ne comprends absolument pas ce qui se passe. D'une certaine manière, c'est plaisant, parce que c'est un objet filmique où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et par exemple, la séquence de danse de rue avec le miroir, maintenant que j'ai vu le vrai Shamadkar, la séquence de danse avec le miroir des pieds, elle est au tout début du film. Voilà, donc moi j'ai l'impression de voir une sorte de travail de vidéaste pour le Palais de Tokyo, sauf qu'en fait c'est involontaire. C'est très étrange, donc je me suis très vite débarrassé de ce DVD.
T'as vu un montage dans le désordre, du coup ?
J'ai vu un montage dans le désordre de Shamadkar.
Waouh.
Ouais, okay. c'était un rip.
Tu as vu le Snyder clairement. Cut.
Ouais, exactement. Voilà, donc j'ai vu ce truc-là et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et surtout, je me suis dit, mais pas sympa, Charouk, là. C'est pas ce qu'on avait prévu de faire, quoi. Voilà, donc j'ai abandonné et je me suis dit, on m'y reprendra pas une seconde fois, je sais pas, je méfierai toujours de regarder les films de Charouk. Voilà, cela étant, maintenant que le contexte est posé,
15 ans
j'ai
plus
donc
tard.
Vu Shamadkar, 15 ans plus tard, exactement.
Wow.
Ça fait très Bollywood, tu sais, comme la pliure, quoi, 15 ans plus tard. Ouais. Voilà. Donc Mathieu a vu Shamadkar. Que dire? Que dire?
Parce que l'attente a été récompensée.
En vrai, oui, parce que je partais tellement loin qu'en fait, je me suis dit, ah, en fait, c'est regardable. Voilà, c'est dur, c'est long, c'est sinueux, voilà, c'est arpenté, mais c'est regardable. On est face à un film qui est plus ou moins une relecture indie de Ghost, hein, ce qui signifie que donc, en 92, oui. On considère que Charouk c'est l'équivalent indie de Whoopi Goldberg. Chelou. Voilà. Et on se retrouve avec un Charouk très, très, je sais pas, oui, très, très naïf, qui rencontre cette espèce d'élément de la pègre, mais qui est vraiment qui est planté là comme... c'est un élément occidental, en fait, parce qu'il est sapé comme un mafieux italo-américain, en fait. On dirait Don Corleone. Enfin, je disais à Amandine tout à l'heure, Dick Tracy, quoi. On a vraiment l'impression que c'est un personnage de pulp qui débarque pouf, dans un film un Bollywood, quoi. C'est un peu étrange. Je trouve néanmoins que, même si c'est un film qui court un peu comme un poulet sans tête, je trouve que l'alchimie, ça marche bien. Ça marche pas trop mal. En revanche, bon, le flashback du personnage, beaucoup trop long.
Oui.
Voilà, il fait à peu près une demi-heure, 40 minutes. On n'a pas besoin de ça, hein, tu peux réduire ton film, c'est pas un problème. Pas besoin de contextualiser toujours autant. Et puis surtout, il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est le fantôme passe un deal avec Charouk qui est en gros, si tu m'aides à me venger, moi je te file du travail. Et en vrai, Anouk tu le sais, nique le travail, donc en vrai c'est pas ouf comme deal, quoi. De se dire, oui, aide-moi à me venger et puis moi je te file du travail. Bah non merci, moi, mais c'est nul, on n'oublie pas. Hein.
Mais c'est l'aspiration de Charouk dans cet épisode. Hein. Il y a deux films, c'est le premier où il monte à la ville pour trouver un taf. Quoi.
C'est attention, parce que je vois que tout se mélange dans vos têtes, mais heureusement, moi j'ai repris des notes après. Là, il cherche de la moula pour son école et il devait aller à Dubaï à la base. Sauf que tout le monde l'a arnaqué dans tous les sens et du coup, il est sauvé par le mec et il n'a pas vraiment le choix. Et c'est plus dans le film d'après où là on a le côté je vais à la ville pour trouver un travail, avoir du succès et tout. Là il cherche juste de la moula pour ouvrir son école. Ce qu'il obtient, me semble-t-il.
Grâce à des lingots en aluminium.
Juste une dernière chose, c'est qu'en fait c'est toujours un plaisir de croiser Johnny Lever. Voilà.
Ah, allez. Johnny Lever, comic relief, qui nous avait tant perturbé dans Kajol et moi, qu'on retrouve là, il est là, tu vois, il prend pas trop de place, il fait un peu le Rob Schneider, mais dans la deuxième partie de carrière d'Adam Sandler, c'est-à-dire il est là parce qu'on n'a pas le choix, et donc pas longtemps. Anouk, est-ce que tu voulais reprendre le flambeau?
Moi, je trouve ça sympathique. J'ai l'impression d'avoir vu beaucoup ça dans les années 90, alors une période que Clem n'a pas connue, donc je comprends qu'il soit choqué. Mais voilà, on a vu ces films avec des fantômes, allez. Ça passe à travers les murs. On s'amuse autant des petits effets un peu cheapos qu'on a réussi à faire que du scénario qui est sympatoche. Il y a encore une fois là des méchants très très méchants, une partie de criquet on comprend rien, des paris qui restent un petit peu... Enfin voilà, moi tout le côté vraiment scénario, intrigue et tout, j'ai pas de ouf suivi, mais c'est pas grave, c'est pas besoin. Charouk est dans son côté, vraiment là, on est sorti de la phase très intense, très je me scarifie du film précédent, et on est dans la phase qui va devenir quand même un pilier de sa carrière, je joue de la flûtine et je fais de la guitare sans vraiment, je fais même pas semblant de savoir quoi. Enfin, on est pas dans la crédibilité, mais on est dans le petit lutin sautillant, joyeux, un peu innocent. Voilà, moi j'aime bien ça, cette légèreté, ça lui va très bien. Donc j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai pas passé un bon moment, mais j'ai passé un moment sympatoche.
J'ai passé un moment.
Voilà, non mais bon après voilà, on s'amuse effectivement aujourd'hui. Regardez pas forcément ça tout seul, mais voilà, on s'amuse un peu des effets vieillots, C'est 2h50, hein, on passe le temps. Mais ça va, ça va. Je me suis pas sentie aussi insultée. Je veux dire, on en a fait des rétrospectives où c'était dur. Les débuts de Maggie Cheung, excusez-moi, c'était quand même autre chose. Hein. Non, là, je me sens pas insultée. Je me sens, bon, je me dis, c'est un film en famille. Voilà, comme il y en avait tant dans les années 90, dans tous les pays. Un film en famille, oubliable. Voilà, notre erreur, c'est de le regarder peut-être 30 ans plus tard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous rappelle des bons souvenirs.
Clem.
Alors.
Petit.
Compliqué, hein, compliqué. Ouais. Effectivement, ça date d'une époque que je n'ai pas connue, puisque j'étais pas né quand il est sorti. Non, je pense que vraiment dès le début du film, tu disais que dès la première scène, il y a un de ses élèves qui lui pisse dessus. 30 secondes après, il y a une blague avec un pote qui est déguisé en cheikh de Dubaï,
oui.
Qui prend un faux accent. Enfin, écoute, en 1 minute 30, quand on a eu le générique animé, quand on a la blague de pipi... Et la blague raciste de Sheik, je me suis dit, bon, on va baisser les bras, c'est pas grave, c'est perdu d'avance. Et c'est un petit peu le cas, hein. C'est vraiment décousu. J'ai eu tellement de mal à suivre, en fait. Ça part dans tous les sens. Et je me demandais constamment si c'était bien sous-titré, parce que j'avais l'impression que même en lisant les dialogues, ça avait pas plus de sens. Avec ce gros flashback, effectivement, comme tu disais, Mathieu, consacré au personnage de Marco, du coup, qui bouffe 40 minutes de film. Ce qui est assez étrange, parce qu'on présente ça comme étant le premier rôle principal de Shah Rukh Khan. Mais en fait, il se fait voler quand même un bon gros temps d'écran par ce flashback. On aura l'occasion de le voir sur la rétrospective, mais Shah Rukh, c'est la pure comédie, c'est pas forcément le genre dans lequel il a brillé. Ou dans lequel il s'est épanoui, et ça se voit en fait. Je trouve qu'il est presque éteint, et ce qui est assez paradoxal par rapport à ce qu'on a vu, que ce soit à la télé ou sur son premier film, il n'a pas l'air lâche, quoi. Il y a quelques moments où on retrouve un peu Shah Rukh, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins d'entrain, de passion, de présence à l'écran que sur les œuvres précédentes.
Des fois il est trop là, hein. C'est aussi qu'il faut qu'il trouve son équilibre.
Mais c'est ça. Exactement, t'as un gros souci d'équilibre. Quand il essaie de forcer le trait comique, ça fonctionne pas. Et je pense que le tempo comique, c'était vraiment pas inné. Autant l'intensité, il l'a tout de suite, le tempo comique, c'est pas là. Et ça se voit. Donc on se raccroche à ce qu'on peut. En fait, c'est vrai que la complicité avec Nasiruddin Shah, elle passe plutôt bien. On notera, puisqu'on est sur la thématique des mannequins en mousse, un superbe suicide de mannequin en mousse sur le flashback de Nasiruddin Shah. Voilà, je pense que ça a été ma scène préférée du film. Magnifique mannequin. J'ai pratiquement en fait oublié déjà tout le film alors que je l'ai vu cet après-midi. Enfin, je l'ai terminé cet après-midi. Mais le final, c'est quand même hallucinant. Avec un plan final sur Nasiruddin Shah en fond vert dégueulasse qui s'envole dans le ciel et qui demande à Dieu « Attends 5 minutes, il faut que je sorte la morale du film !»
S'il te plaît, frère. Ouais.
C'est incroyable. Enfin, sachant que déjà, quand il apparaît, il dit que c'est Dieu qui lui avait prédit que seul son sauveur pourrait le voir. Enfin, j'ai pas compris le lien entre les fantômes et Dieu, mais visiblement, c'est des super potes. Mais en tout cas, cet arrêt final là de « Attatata, il faut que je sorte la morale du film au spectateur !» Et en même temps, elle sort de nulle part, donc tu comprends qu'ils soient obligés de l'expliciter parce que ça n'a aucun rapport avec ce que tu viens d'endurer pendant 2h30, 3h. Donc voilà, assez compliqué. J'ai vu une petite anecdote qui m'a fait marrer quand même, c'est que en 2016, Shah Rukh Khan a racheté les droits du film, parce qu'il rachète pas mal les droits de ses anciens films. Ma théorie, c'est qu'il veut faire disparaître toutes les copies et que personne ne puisse le voir. Et j'aime beaucoup cette théorie. Donc voilà, c'est dommage, on est passé avant. Ne faites pas ça chez vous, c'est... Voilà.
Très compliqué. Amandine ?
Ah bah l'enfer, hein. L'enfer, ça y est. Ça y est. Moi, j'ai perdu 10 points de vie, là. Je déteste ce genre de film. Je comprends pas. Est-ce que c'est pour enfants ? Est-ce que c'est pas pour enfants ? C'est trop violent pour les enfants. On tue les gens et en même temps, les fantômes, ils font des gamineries. Enfin, c'est l'enfer. Bon, déjà, le générique, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû boire de l'eau parce que j'ai trop de respect pour l'animation indienne pour supporter ce genre de truc. Immonde, mais immonde. Ouais. T'as dit sur Minitel, mais c'est pire. Là, ils ont essayé de coloriser le Minitel. L'enfer, voilà. Clem, ne regarde pas le Minitel, tu ne connais pas. Mais un enfer. Donc, générique infernal. Après, je suis d'accord avec Clem, c'est-à-dire que moi, en 5 minutes, pipi caca, le tchèque arabe, l'enfer. Et après, on monte dans un train pour partir à Bombay, je me dis ça va aller mieux, on va avoir voilà cette envie de réussite, l'arrivée à la ville. Bah non, parce que qu'est-ce qui se passe dans le train ? Eh ben on y a une immonde scène pseudo-comique d'un groupe de femmes qui veulent déguiser Shahrukh. Enfin, oh, secours. Le pauvre gars se retrouve avec des couettes, du maquillage, on comprend rien, c'est pas drôle, c'est horrible. Après, donc arrivé à Bombay, et là le gars se fait arnaquer partout. Donc moi, je déteste ce genre de trucs. Il y a des trucs que j'aime pas en cinéma, c'est toutes les scènes de jeux, de paris, de roulette russe, tout ça. Je déteste toutes les scènes de jeux de cinéma, et j'aime pas du tout quand on m'inflige de voir un personnage se faire arnaquer. Bon, me demandez pas pourquoi, je ne vois pas de psy, tout va bien. Mais bon, alors là, j'en ai pour mon argent, parce qu'il se fait arnaquer, mais partout. À la gare, dans le partout. Et là, pour moi, c'est l'horreur, quoi. Il a perdu tout son fric, il n'y a plus rien. Et plutôt que de me rassénérer, qu'est-ce que m'inflige le film ? Un de mes acteurs préférés, Nassiruddin Shah, en fantôme déguisé qu'un imperméable, l'horreur. Donc je ne peux rien dire de plus que j'espère que ce film va disparaître. Il ne sert à rien. J'arrive pas à comprendre qui est la cible. Me dites pas que c'est un film familial. Bah non, tout le monde veut tuer tout le monde. C'est une morale dégueulasse. Et bien à la fin, évidemment, une heure de cricket dans les dents, on n'a toujours rien compris aux règles, tout va bien quoi. Voilà, je sais pas, je ne suis pas public, on va le dire poliment.
Ça c'est pareil, c'est un de mes angles morts avec la culture indienne, c'est le cricket. Je ne connais pas les règles et en même temps, j'aime bien en regarder, parce que j'avais ça avec le baseball aussi. Je comprenais tellement rien que des fois, tu vois, je croyais avoir compris, puis quelqu'un partait complètement dans l'autre sens, j'aimais bien, parce que ça me perturbait. C'est mon côté anti-sport, je pense. Et le cricket, pareil, tu vois, je vois le match, je ne comprends rien. Et rajouter de l'élément fantastique, ça me rend encore plus confus. C'est super.
Mais justement, ça peut peut-être aider justement à ne pas comprendre, parce que le cricket, c'est hyper compliqué comme sport, en fait. Ceci étant... alors, évidemment, c'est un sport c'est le sport national indien, mais c'est aussi le sport de Shahrukh.
Ouais.
Je ne sais pas si on y reviendra ensuite, parce que je ne connais pas toute la filmographie de Shahrukh, mais il a voulu être joueur de cricket et il n'a jamais pu, il s'est blessé, ouais. Et du coup, il a continué à être attracteur. Et surtout, il a acheté une franchise de cricket. Voilà. Je sais plus
quel l'équipe de Kolkata. Kolkata.
Ouais, voilà. C'est ça, voilà.
Alors que ouais. Le kabaddi, quoi. Kabaddi, quoi. C'est un autre débat.
Pour moi, il a fait beaucoup de films dans l'année. Hein. Mais avait-il besoin de faire ce film, quoi ? Parce que, au secours, quoi.
Nassiruddin Shah, hein. Enfin, c'est quand même une occasion de pas de jouer.
Ah, attendez, il vient de débarquer, il a déjà des premiers rôles. Tu dis pas non, oui. En premier rôle, parce que c'est ta première année. Enfin, tu vois. Bon, la moula, certes, mais au-delà de ça...
Tu prends la flûte et tu souffles dedans,
ça, c'est
quoi.
Enfin, tu vois, il faut mettre le pied dans la porte. Hein.
Et puis, il faut flexer pour Gauri aussi, quoi. Enfin, il veut sa meuf ou pas. Donc, du coup, bah, il fait plein de rôles. Et comme ça, après, tac.
Jamurre, ab kholi number 5 ka darwaza khulega, ladki sukha tawliya sukhane ke bahane bahar aayegi.
आया
अब हीरो स्टाइल मारेगा सबसे नजर बचाकर अपने लैला को इशारा करेगा
Et donc Raju Bangaya gentleman Raju devient un gentleman. Film réalisé par Aziz Mirza, toujours en 1992. Shahrukh joue cette fois-ci un ingénieur qui part à Bombay pour trouver du travail. Il tombe sur, en arrivant, sur un acteur qu'on adore, qu'on a croisé dans l'intégrale Sanjay et la bande Sally. C'était le premier film, je crois, Kamushi de Musical, où il jouait le père sourd et muet, complètement éploré, complètement génial, complètement fou, complètement à fleur de toit. Et Nana Patekar, du coup, joue un philosophe, clochard céleste, qui va être là pour lui mettre des coups dans la gueule. Et moi, j'ai envie que dans tous les films, il y ait Nana Patekar qui arrive à un moment et qui dise « Mais qu'est-ce que tu fous ?» C'est quoi ton problème, en fait? Tu vois, ce qu'a essayé de faire Guillaume Canet dans Les Petits Mouchoirs avec Jean-Louis l'ostréiculteur. Mais il a fait que de la merde derrière. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que fait Nana Tegar dans Raju Bangal, Gentleman. Je m'égare. Voilà. Et donc, il est recruté dans une compagnie où son intégrité, son charisme et ses idées visionnaires sur les économies de coûts, grosso modo, vont le faire monter en grade. Il tombe amoureux d'une jeune fille et en même temps... Une membre éminente de la compagnie, enfin la fille du boss, aussi, elle lui fait les yeux doux. Ah, il va y avoir le ménage à trois. Bah, pas vraiment, en fait. Pas vraiment, mais les circonstances vont faire qu'il va être déchu de façon honteuse, scandaleuse, toujours des ennemis, toujours Nana Batekar pour foutre des coups de latte partout où il faut. On a vu les films tous dans l'ordre à peu près, et c'est le film où on a tous dit « Oh, ça fait quand même beaucoup, là, non ?» Et Clem, tu as été le sursaut républicain sur Raju Bangaya Gentleman. Explique-nous.
Ben, j'ai passé un bon moment.
Et ben voilà.
Voilà, point final.
Je suis libertarien, démerdez-vous avec ça. C'était ma participation à l'anthologie. Au revoir.
Le petit moment in hand. Déjà, petite remise en contexte, je trouve que le film est super intéressant pour deux trucs. C'est que ça va marquer la rencontre de Shah Rukh Khan avec deux personnes qui vont beaucoup compter dans sa filmographie, Aziz Mirza et Juhi Chawla. Aziz Mirza, c'est un réalisateur, c'est pas tout à fait sa rencontre, parce qu'en fait, il l'avait dirigé dans la série télé Circus, entre 89 et 90. C'est un réalisateur qui va le diriger ensuite dans quatre films, jusqu'au début des années 2000. Donc c'est une rencontre artistiquement qui va beaucoup lui plaire. C'est un cinéaste qui, de par la proximité qu'il avait eue avec Shah Rukh Khan sur le tournage de Circus, c'est lui qui a beaucoup insisté auprès des producteurs pour que Shah Rukh Khan tienne le rôle principal, alors que les producteurs voulaient plutôt une tête connue pour l'époque. Ce qui est assez intéressant, du coup, c'est que Juhi Chawla, elle, est déjà une actrice très reconnue au début des années 90. Elle fait partie, un peu avec Madhuri Dixit, des talents de l'industrie indie qui sont déjà des stars naissantes. La différence, c'est qu'elle elle sait jouer. Le point avec Juhi Chawla, c'est que c'est...
Vas-y, allô,
non, 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 mort, je tends ma chaise, je m'étonne. Mais
j'attends.
Okay. Avec Juhi Chawla, il va tourner énormément de films de tête. Je crois qu'il en tourne autant avec elle qu'avec Kajol. Donc c'est quand même un couple du cinéma qui va marquer le public indien. Et ces trois personnes, donc Shah Rukh Khan, Aziz Mirza et Juhi Chawla, ils vont monter une maison de production ensemble. Qui plus tard va être complètement récupéré par Shah Rukh Khan, va devenir Red Chillies, ouais. Mais à la base, Dreams Unlimited, c'est Aziz Mirza, Juhi Chawla et Shah Rukh Khan. Donc c'est quand même un trio qui prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble, et j'aime bien voir les prémices comme ça d'une histoire qu'on va suivre après pendant pas mal d'années naître à l'écran. Ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'il y a une forme de douceur, je trouve, dans le fait de représenter une jeunesse des campagnes. Shah Rukh qui vient de la campagne, qui rêve de la grande ville, parce que c'est vraiment le rêve de l'ascension sociale, en fait. Il va arriver dans la grande ville, il va tout de suite avoir un super travail dans sa tête, il va devenir riche, il va être respecté. Et déjà, il y a ce côté un peu méta de Shah Rukh qui débarque dans une industrie de népotisme, dans une industrie où il n'y a pas beaucoup de gens du peuple qui réussissent, et qui incarne un petit peu cette jeunesse qui arrive de nulle part et qui veut prouver qu'elle va y arriver. Et en même temps, le film est extrêmement lucide et critique de cette idée-là. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un chef-d'œuvre d'écriture.
Si, tu l'as dit. Plein de soucis. Tu l'as dit. C'est bon, c'est noté.
Il y a une tentative.
Il y a une tentative d'en faire une comédie à pas mal de moments qui ne fonctionne pas. Par contre, je trouve que la partie romance avec Juhi Chawla fonctionne plutôt bien. Il y a des jolies chansons, c'est assez attachant. Et que j'aime bien ce que le film raconte, en fait, tout simplement sur le fait que, en voulant s'élever socialement, ça devient quelqu'un de peu recommandable, qui va se retrouver dans des sales affaires, et il faut qu'il réalise que c'est devenu... qu'il a fait des compromis, qui fait n'importe quoi pour avoir un arc de rédemption qui est très facile.
Alors,
à
pardon,
la fin.
Mais Chamatkar, c'était la même morale et t'as trouvé que c'était de la merde. Hein.
Parce que ce n'est pas une comédie de 3 heures. Voilà,
c'est vrai
déjà,
que ça fait que
ça.
2h34 et qu'il y a des moments un peu sérieux.
Et c'est un drame.
Ouais. Il y a beaucoup moins de comédie, je pense que ça fait toute la différence. Nana Patekar aussi, tout simplement, en fait. Je trouve qu'il... Dès qu'il était à l'écran, j'étais très heureux. J'aime beaucoup ces scènes. Mm. Pour ceux qui aiment les parties de vieille technologie, j'avoue qu'il y a une scène où Shah Rukh passe un entretien d'embauche, fait un calcul de tête, et t'as le mec derrière en fond qui tape sur l'ordinateur. Pour vérifier si son calcul est réel. Et voilà, moi, ça m'a fait mourir de rire, parce qu'il faut un délai de 15 minutes avant que l'ordinateur calcule. C'est incroyable. Voilà. Donc rien que pour cette scène, regardez-le, c'est pas fabuleux, mais c'est le moins pire des trois qu'on ait vu ce soir.
C'est terrible parce que Clem, c'est un peu notre Azealia Banks, c'est-à-dire qu'il a soit radicalement raison, soit radicalement tort, mais rarement au milieu, tu vois.
Mon Dieu, waouh, quelle comparaison. Pour la musique, moi j'étais d'accord avec, radicalement d'accord avec Clem, je me disais que c'était la meilleure des trois films qu'on avait vus. Elle est signée Jatin Lalit, donc le duo qui a fait la musique de films qu'on verra après, hein, Dilwalan Dulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai, Kamoshi dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que je me suis dit, oui, c'est pas mal pour la première fois. Enfin, à côté du côté vachement classique, finalement, de Divana, et du côté de quoi tu me parles de Shamadkar, je trouvais que ça faisait la blague. Amandine, Raju Bangaya Gentleman, l'immobilier dans les années 90.
Ouais, beau. Non, il y a des choses, je vais pas. Il y a des choses que j'aime bien, mais que voilà, Clem a pointé. J'aime bien le couple. Shah Rukh Jui, je trouve qu'il marche bien. Elle, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette actrice. Je la trouve très choupinette, très mignonne, très, très pétillante. Donc, non, ça me plaît bien. J'ai une passion pour Nana Patekar. Donc, évidemment, j'aurais aimé qu'il ait plus de scènes, plus de tirades. Je trouve vraiment son personnage intéressant, un peu cette espèce de contrepoint, enfin de voix qui il rassemble des foules autour de lui dans des lieux à Bombay, et puis il essaye de dire des choses, en fait. J'aime bien vite fait, mais vraiment vite fait, l'espèce de réflexion sur la ville en mouvement, la ville qui change, le monde de l'immobilier, voilà, ça me plaît. J'aime bien aussi les quelques scènes au bord de l'eau avec les couples, ça dit quelque chose, là aussi, il y a une scène que j'aime beaucoup. Shah Rukh, tout déprimé, il balance ses papiers, ses lettres de refus, il les balance autour de lui, puis en fait, ça tombe toujours sur des couples. Au bord de l'eau, et du coup, on voit, ça dit quelque chose quand même de ce manque d'intimité, du fait que les couples, pour juste se parler, sont obligés d'aller dans l'espace public, se planquer au bord de l'eau. Donc, en sous-texte, je trouve que ça dit plein de choses sur une évolution de la société indienne, des couples non mariés qui se retrouvent, comme Shah Rukh et Juhi. Tout ça, j'ai trouvé ça... Ça m'a intéressée, mais vraiment, c'est parce que j'avais décidé de m'intéresser un peu, pas être pour pas rester sur l'enfer de Shamadkar. Mais globalement, oui, c'est pas non plus un film. Je pense que je l'aurais oublié demain matin, une fois qu'on en aura parlé, quoi. Ça m'a pas. Je trouve que Shah Rukh est très bien en arriviste, machin, mais quand même, on va pas non plus s'extasier sur ce truc, quoi.
Mathieu. Slip ou caleçon devant.
Je suis beaucoup moins enthousiaste que vous tous sur ce film, peut-être parce que c'est le dernier que j'ai vu.
T'as senti de l'enthousiasme dans la voix d'Amandine, parce que moi pas ouf. Hein.
Oui. Il est vexé parce que Clem a dit vieille technologie pour des ordinateurs qu'on a tous connus.
Sur lequel je travaille et j'enregistre là d'ailleurs.
Non, c'est juste que à un moment du film, je me suis demandé si justement je voulais pas ce que j'aurais voulu voir, c'était pas un film de kung-fu avec Nana Patekar, une espèce de Zaito Ichi, il traverse l'Inde et il met des coups de latte. Voilà, je me suis demandé, tout en dissertant, voilà, je me suis demandé si c'était pas ça que je voulais voir.
Mathieu, toi, t'es ouvert à des propositions de producteurs en ce moment, si jamais ça accroche, voilà. On veut tous voir ça.
Oui.
Ben oui, ben, bien sûr. Un peu, est-ce que ce serait pas ce qu'on va voir, Monkey Man, le Monkey Man qui arrive avec Dev Patel? Est-ce que c'est pas ça, finalement? Non, parce que il a pas l'air de philosopher.
Aucune idée, oui,
non. Non, je trouve que, je sais pas, déjà l'histoire ne m'intéresse pas, là, cette espèce de jeune ingénieur, c'est un peu le comment il s'appelle cette œuvre-là, déjà, de Stravinsky, là, l'opéra The Rake's Progress. C'est un peu ça, c'est un peu le, c'est un peu Bel Ami, quoi. C'est le mec qui arrive, il veut changer le monde. En fait, il rentre dans un moule, il rentre dans une bourgeoisie, puis en fait, il...
Mais la bourgeoisie ne veut pas lui.
Non, et voilà, il change rien du tout. Enfin, bon, bref, cette histoire-là, c'est vu et revu. Je trouve que, c'est... en plus, je trouve que Charouk est en deçà par rapport aux deux précédents films, justement. Je trouve qu'il est en deçà dans sa performance. Potentiellement parce que, justement, il s'est peut-être fait bouffer par Juhi Chawla et par Manmohan Patekar, qui lui mange un peu la fiche, quoi. Donc, j'étais un peu moins jouasse en voyant le film. En plus de ça, il y a des trucs qui sont complètement abscons, comme l'ingénierie civile, c'est un truc sérieux. Et bon, quand on est censé pourvoir aux besoins des citoyens avec des infrastructures fiables, je trouve ça un peu cavalier de laisser l'amour être guide des promotions en interne, d'une part. Et puis, bon, on a des méchants qui reculent devant rien tellement qu'en fait, ils font écrouler un pont juste pour faire tomber Charouk. Voilà.
Le procès final.
Oui, là, exactement.
Les procès dans les films indiens, en général.
C'est ça, voilà. Le procès final de pourquoi se faire chier avec un film de procès. Il suffit qu'Amrita Singh se pointe à la toute fin en dernière témoin. Il y a toute la boîte qui défonce Charouk, qui dit si, c'est lui, il avait tout prévu. Et elle se pointe et dit non, c'est faux. Et là, d'un seul coup, ok, il est innocenté, c'est bon, ouh, tout le monde sort, on jette des papiers, et puis c'est bon, c'est
surtout,
parti.
Surtout, il manque d'annuler le procès parce que Charouk se fait dérouiller par des hommes de main, il est sauvé par Nana Patekar qui les dérouille à lui tout seul, et Charouk arrive en sang, et t'as le juge qui fait bon, oui. Bon, on va y aller, c'est bon, on va commencer maintenant.
Par contre, en revanche, cette scène, je trouve que cette scène où Charouk est tiré de tribunal, enfin on ne laisse pas rentrer dans le tribunal et il se fait savater. À l'inverse du reste du film, je trouve qu'on a une mise en scène qui est assez travaillée. Parce que je trouve que le film n'est pas, enfin en termes de mise en scène, c'est vraiment pas dingue. D'ailleurs sur les trois films, hein, globalement, c'est pas fou. Alors que cette séquence en particulier, je trouve qu'elle est super bien faite avec les colonnes et les travelling latéraux qu'on voit, etc. Il y a du mouvement en fait. Alors c'est du mouvement pour montrer que Charouk se fait tabasser ad vitam aeternam, mais quand même je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant aussi, et c'est là je me retrouve dans ce que disait Clément aussi, c'est qu'en fait on sent que Charouk et la comédie c'est pas encore ça, voire attention hot take, c'est pas ça du tout et ça le sera pas forcément jusqu'au bout de sa carrière.
Il aura ses moments. Je suis pas... mais
ouais, mais je pense que c'est... Oui, mais enfin, une horloge cassée donne deux fois l'heure.
Absolument.
Par jour, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se fier au talent comique de Charouk? Non. Par contre, son talent dramatique, oui, clairement. Ce qu'Amandine a qualifié de la représentation du héros, dans le premier épisode, en fait, on est là-dedans aussi. C'est-à-dire que dans Raju Bandgaya et Gentleman, il y a vraiment l'arrivée du héros. Il est là, Charouk, il est là, il est intense dans les scènes musicales, dans les morceaux musicaux, il est intense aussi. Voilà, quand il fait faire preuve d'intensité, il est là, mais je trouve que justement le film peut-être manque un peu d'intensité à mes yeux.
J'entends et j'abonde. Anouk.
Ben moi je rejoins la voix de la raison, la voix de la jeunesse, la Gen Z, Clem. J'ai passé un bon moment aussi. C'est pas la même catégorie. Pour moi, on a eu deux nanars sympatoches avant. Là, on n'a pas un nanar. C'est autre chose. Est-ce que c'est un bon film? Pas tout à fait, mais c'est pas un nanar. Donc on s'amuse moins, mais quand même, ça se tient un peu plus. D'après ce que tu as raconté en début d'émission, François, je comprends que c'est le biopic de Charouk Khan, hein, c'est-à-dire que il s'est marié avec le costume du... Mais bon, l'histoire, c'est sa vie, c'est-à-dire un garçon plein d'ambition qui va tenter de réussir à la ville. Et va-t-il garder son intégrité dans ce monde terrible des gens riches et des vilains? Par contre, trigger warning, je crois que c'est que dans celui-là. Peut-être que c'est dans un autre film aussi où je crois que c'est deux fois dans celui-là. Il y a quand même un petit racisme anti-chinois. C'est un peu daté, ça.
Il a très envie de manger chinois.
Oui, mais alors, est-ce que...
Il veut manger chinois.
Moi aussi, j'adore les nems. Je ne fais pas pour autant la yellow face, tu vois. Enfin, à chaque fois que je rentre dans un restaurant chinois. Bref, voilà. Mais sinon, je suis d'accord avec tous les gens qui ont dit des trucs gentils et pas d'accord avec tous les gens qui ont dit des trucs méchants, même si, voilà, c'est effectivement pas le chef-d'œuvre du siècle.
Puis Nana Patekar, quand même.
Non, mais bien sûr, j'ai pas voulu le répéter parce qu'on est nombreux, on est cinq, tout le monde a dit Nana Patekar, mais évidemment, Nana Patekar, je l'adore, Nana Patekar. Il faisait toutes les scènes où il était. Là, pour le coup, tu le vois, tu te dis, ah, c'est un bon film. Et du coup, c'est vrai qu'il y a le film est inégal à cause de Nana Patekar parce que tu le vois, t'as l'impression que tu regardes un chef-d'œuvre, rien que par sa tête. Ce que Charouk Khan n'arrive pas à faire. Notez bien, Charouk, tu peux l'imaginer dans un AV, on l'a vu d'ailleurs. Nana Patekar, tu te dis, même lui dans un AV, il fera toujours partie d'un autre film, quoi. Enfin, c'est pas, il a une prestance, un truc qui est beaucoup plus chic que Charouk.
Le mec peut te sauver Taxi 6, quoi.
Si là, vous deviez en revoir un des trois, c'est celui-là que vous revoyez.
Ah, Divana, moi, je crois.
Ouais, c'est Divana.
Ouais, Divana.
Bah oui, Divana.
Ouais.
Ah, j'ai moins souffert avec celui-là. Hein.
Mais ouais, mais Divana, ça fait plus longtemps, du coup, j'ai déjà oublié. En fait, c'est peut-être pour ça que je...
Celui-là, il y a quand même tout le blabla pseudo sur l'architecture et plus d'eau sur le ciment, sur... c'est chiant, quoi. C'est méga chiant.
Ouais, mais quitte à avoir une fin bâclée, le procès est vachement plus divertissant que la fin bâclée de Divana.
Non, arrête.
Oh là là,
les 5 minutes finales de Divana.
Attends, Charouk qui doit prouver qu'il est pas responsable et qu'il est sain d'esprit et qui arrête pas de gueuler en sang devant le tribunal et qui va harceler la meuf pour qu'elle dise mais non, c'était pas moi. Enfin, je trouve ça incroyable. Tu dis, y a pas pire move. T'es innocent, mais on n'a pas envie de te croire. Quoi.
Oui, mais en même temps, t'as pas Richie Kapoor et Amrish Puri qui explosent. Quoi. Donc, ton argument est invalide. Je suis désolé, Clément.
Okay,
bon, allez, on les renvoie les trois et on se refait la même la semaine prochaine.
Oui.
En parlant de revoir les films, François, est-ce que t'as regardé Fauji comme t'avais promis de le faire au premier épisode ou pas?
J'ai regardé le deuxième épisode et je me suis endormi.
C'était la bonne réponse.
Voilà. Je suis désolé.
On te pardonne, François. Le contraire nous eût inquiété.
Laissez-moi jusqu'à la fin de l'anthologie.
Non, mais... tu as fait le bon choix, mais tu t'es dit que c'était le bon choix. Arrêtons-nous là.
Okay. Exactement. On va pas te faire mal, François. Vraiment.
On n'a pas besoin de foulure. On est qu'au début, là.
Ta magnanimité, je savais que j'arrivais pas à le dire. Ta magnanimité t'honore. Mathieu, merci beaucoup.
C'est pas un mot indien pourtant.
Bon, bah, un grand merci à vous quatre et on se retrouve plus tôt que prévu.
Annonce pas parce qu'on se fait des épisodes bonus comme ça. De toute façon, notre but, on l'a dit, c'est de faire mieux que Nicolas Cage. On est très bien parti. On a eu quelques petites maladies au début, quelques petits problèmes de garde d'enfants, mais là c'est bon, on roule, on s'arrête plus. On va regarder Nick Cage dans le rétro, nous on sera à 150 sur l'autoroute. En sens inverse, on en a rien à foutre.
Encore merci à vous et à bientôt.
Ciao.
Merci.
Merci, salut.
À bientôt.